Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile qui est adressée à chacun. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, chrétien ou non, protestant ou non, sans religion ou avec une religion, la grâce et la paix vous sont données en Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Rien à craindre de Dieu, mais tout à espérer pour chacune et pour chacun. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez au début du psautier français. C'est ce psaume 134, « Bénissons Dieu le seul Seigneur », que nous chantons pour commencer dans la louange.
C'est Clémence qui nous conduit dans la louange.
Béni soit le Seigneur, il nous a aimés avant que nous le connaissions. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous faire découvrir l'amour. Il nous a donné sa promesse pour que nous espérions. Béni soit le Seigneur, il vient à notre rencontre. Il nous donne sa parole, il nous fait connaître sa volonté. Il nous donne Jésus-Christ qui est le chemin et la vie. Il nous donne sa promesse qui nous rend joyeux dans l'espérance. Béni soit le Seigneur. Amen.
Et c'est à travers le chant du psaume 8 dans le psautier français que nous pourrons chanter les strophes 1, 3 et 6 pour nous placer dans une attitude de louange et de reconnaissance face à l'œuvre créatrice de Dieu. Nous prenons place. Comme pour tout dimanche catéchétique, ce sont les enfants de l'école biblique et les catéchumènes qui déroulent notre liturgie. C'est une manière pour nous, bien sûr, de dire que les jeunes ne sont pas l'avenir de l'Église, mais qu'ils en sont le présent, et qu'il n'y a pas des paroissiens qui seraient d'une dignité supérieure. Nous sommes tous à égalité de dignité face à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les enfants sont aujourd'hui liturges, et c'est la raison pour laquelle Sacha nous fait retentir maintenant une expression de la volonté de Dieu.
Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, Pourquoi vous entendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ce qu'ils aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez seulement à ce dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour.
Cette expression de la volonté de Dieu nous conduit à la prière, une prière d'humilité, et c'est Pierre-François qui nous donne les mots pour notre prière.
Il y a des jours où mes paroles dépassent ma pensée et font de profondes blessures. Pardon pour ma faiblesse. Il y a des jours où je casse le fil de la relation qu'avec beaucoup de mal j'ai tissé. Pardon pour ma faiblesse. Il y a des jours où mes occupations m'éloignent de toi, Seigneur, et me font oublier ton amour. Pardon pour ma faiblesse. Amen.
Le cœur de notre foi n'est-il pas que là où le péché abonde, la grâce surabonde? Eh bien, nous pouvons entendre ces paroles issues du livre du prophète Ésaïe, retentissant dans la bouche d'Ulysse comme des paroles de surabondance, qui ne sont pas des paroles de donnant-donnant suite à notre prière, mais des paroles de grâce qui dépassent largement nos espoirs, nos vœux et nos rêves.
Quand les montagnes s'effondreraient, dit l'Éternel, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel.
Ces paroles ont vraiment retenti comme des paroles surabondantes, ne serait-ce que par leur intensité. C'est précisément le sens de la catéchèse. Katekein, en grec, c'est faire écho, et c'est un écho qui ne s'affaiblit pas. C'est un écho qui trouve une intensité renforcée par ce que nous injectons d'amour et de grâce. La catéchèse, c'est le fait de pouvoir faire retentir une parole qui est parfois comme un murmure sur toutes les parois qui composent une église locale pour la rendre plus compréhensible. Tout à l'heure, après la lecture biblique qui sera suivie d'une prière et d'un chant. Après ce moment-là, avec les enfants de l'école biblique, c'est-à-dire les enfants qui sont à l'école primaire, nous continuerons un culte adapté, un culte compréhensible pour chacun, tandis que les catéchumènes, ceux qui sont encore au collège, resteront ici pour suivre avec les adultes le déroulement du culte. Pour l'heure, c'est Ondine qui va nous faire entrer dans un moment d'expression de notre foi en disant ce qui est pour nous le cœur même de notre vie spirituelle.
Dieu est amour. Par amour, Dieu notre Père a créé le monde. Son Fils Jésus-Christ a vécu pour que l'amour naisse au cœur de tous les hommes. Son Esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour, dans l'Église comme artisans de vérité et de pardon, parmi nos contemporains comme artisans de justice et de paix, dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toutes choses. Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen.
Gloire à Dieu, dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Avec les enfants des écoles bibliques, donc, nous allons suivre aujourd'hui l'histoire du prophète Élie. Et alors nous avons choisi de lire pour ce temps de culte un texte, je préfère vous prévenir à l'avance, un texte absolument horrible, avec Dieu qui tuerait plein de gens, un roi effectivement pas formidable, mais aussi de pauvres petits soldats innocents. Mais vous devinez bien que si on vous parle avec James de ce texte aujourd'hui, c'est qu'il existe une façon de lire cette histoire qui soit cohérente avec l'évangile du Christ, et qui nous aide même à recevoir cet évangile et à en vivre. En effet, l'évangile, c'est que Dieu est source de vie partout, toujours, pour tout le monde. C'est ce que Jésus montre avec ses gestes, mais aussi avec ses paroles, bien sûr, comme quand il dit l'évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu aime et fait du bien même à ses ennemis. Alors je voudrais vous rappeler ce texte dont nous avons entendu le début à l'instant, c'est dans l'évangile de Matthieu, c'est un des textes peut-être fondamentaux dans ses livres, celui qui était préféré de Martin Luther King. Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, alors vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car lui aussi, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et donc voilà, l'évangile du Christ, c'est que Dieu est source de vie partout, pour toujours, même pour les méchants. Alors nous allons chercher à comprendre ce texte difficile, comment cette théologie peut s'appliquer dans l'histoire qui est à la fin du premier livre des Rois, et au début du second livre. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans le chemin de son père, dans le chemin de sa mère, et dans le chemin de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rendit un culte à Baal et il se prosterna devant lui. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait avant lui son père. Alors Akasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il se blessa grièvement. Il envoya les messagers et il leur dit « Allez consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écron, pour savoir si je survivrai à cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le prophète « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce parce qu'il n'y aurait pas de dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écron ? » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas avant que tu meures et tu mourras certainement. Puis Élie s'en alla. Les messagers donc revinrent auprès d'Akasia qui leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous revenez ?» Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez et retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y aurait pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écron ? C'est pourquoi le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. » Akasia leur dit « Quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent « C'était un homme avec un vêtement de fourrure et il avait une ceinture de cuir autour des reins. » Alors Akasia dit « C'est Élie, le prophète. » Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit « Homme de Dieu, le roi a dit « Descends ». Élie répondit au chef des 50 « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et effectivement, le feu descendit du ciel et le dévora, lui et les 50 hommes. Alors Akasia envoya de nouveau vers Élie un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie « Homme de Dieu, ainsi parle le roi, dépêche-toi de descendre. » Élie leur répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et dévora, lui et les 50 hommes. Akasia envoya encore et encore le chef d'un troisième cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et en son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et il lui dit en le suppliant, « Homme de Dieu, je te prie que ma vie et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. Voici que le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. » Alors Élie se leva, il descendit avec lui vers le roi et il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zéboul, dieu d'Écron, est-ce parce qu'il n'y aurait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole ? Eh bien, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas, car tu mourras certainement. » Et Akasia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Alors, pour commencer à méditer sur ces textes difficiles, je vous propose, pour nous mettre dans l'ambiance, de chanter le cantique 183, « Daigne en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, oui, que la tendresse de Dieu se révèle à chacun d'entre nous à travers ces textes. » Les trois strophes du cantique 183 dans le petit recueil « Louanges et prières ». Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir nous semble incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces humaines. Seigneur de notre espérance, de notre amour et de notre vie, nous te cherchons dans la méditation de ces témoignages anciens qui sont dans la Bible. Nous t'espérons, ô toi, source de nouveauté de vie. Il faut reconnaître que ça se passe plutôt mal pour le roi Akasia. Au début, il est au sommet de sa puissance, il est donc roi d'Israël, il monte même sur la plus haute terrasse de son palais royal, qui domine donc toute la ville, mais sa vie sera une véritable dégringolade. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que c'est Dieu qui l'aurait puni avec un accident ? Est-ce que c'est Dieu qui tue les soldats, 50 par 50, tout au long de l'histoire ? Est-ce que c'est Dieu qui, à la fin, va le tuer ? C'est impossible, car Dieu ne blesse pas, il ne fait pas tomber, il ne nous pousse pas dans l'escalier, il ne tue personne. Au contraire, il cherche encore et toujours à guérir, à relever et à faire vivre. Jamais il n'abandonne un seul de ses enfants, c'est la promesse que nous avons dans l'Évangile. Alors comment lire ce texte ? À la base, il y a probablement une histoire vraie d'un mauvais roi d'Israël dont on connaît par l'histoire, par l'archéologie, les dates de son règne. Mais cette histoire est si ancienne, 2900 ans, et dans un pays si lointain que ça a finalement bien peu d'importance pour nous de savoir ce qui est arrivé à ce roi, en fait. Mais à l'occasion de cette histoire, un prophète a écrit ce texte pour témoigner de sa foi, pour témoigner de ce que Dieu apporte dans notre existence et pour nous inviter à vivre en ne laissant pas passer le salut que Dieu nous donne comme ce roi stupide et en fait qui a été aussi donc méchant pour son peuple. Mais plutôt à l'inverse de ce roi Akasia, eh bien de progresser, de nous élever, mais pas en montant au sommet de la puissance ou au sommet du palais, de nous élever dans l'ordre de la bonté, de la grandeur de nos idéaux, de nos actions, de notre foi. Et ce que nous propose ce texte, c'est plutôt que de dégringoler, devenant de plus en plus mauvais, devenant néfaste pour les autres autour de nous, et nous détruisant nous-mêmes, eh bien, de trouver plutôt ce chemin de croissance et de vie. Alors, cette histoire est donc à comprendre comme une prédication et donc comme un conte théologique, en fait. C'est-à-dire une mise en récit de vérité existentielle, théologique, spirituelle. Alors, comment interpréter cette histoire ? Eh bien, regardons les personnages de cette histoire pour voir en quoi ils parlent de nous et de notre vie. Il y a d'abord le roi Akasia. Le roi, c'est celui qui décide, qui gouverne. Et donc le roi représente notre capacité à prendre des décisions dans la vie. Nous sommes tous un roi dans ce sens. Dans ce sens où tous, du plus petit au plus grand, nous prenons des décisions, parfois sans trop savoir comment, mais tous les jours, nous prenons des petites décisions. Les serviteurs qui sont ensuite envoyés par le roi pour consulter le roi Baal, ils représentent les pensées, les actes qu'on choisit d'avoir. Et puisque ces serviteurs sont envoyés consulter le roi Baal-Zéboul, eh bien ces serviteurs représentent dans ce texte notre prière. Ils représentent notre espérance, ils représentent notre recherche de sagesse. Ces serviteurs, eh bien, nous en sommes aussi un peu comme ces serviteurs, et donc nous sommes ainsi prêtres, théologiens, philosophes, recherchant le sens, recherchant à consulter ce que nous plaçons comme Dieu dans notre existence. Alors ensuite, nous voyons arriver le prophète Élie. Le prophète Élie représente notre foi, c'est-à-dire la présence de l'Esprit de Dieu en nous, par lequel, oui, nous sommes prophètes. Il représente aussi peut-être notre bonne conscience, notre bon cœur, qui, eux aussi, finalement, notre bonne conscience, notre bon cœur, peuvent nous indiquer le chemin d'une bonne vie. Et les soldats qui sont envoyés par le roi représentent notre force, nos actes pour agir dans le monde, avec de la force, avec la puissance de nos bras, de nos jambes, de notre bouche. Et donc chacun de nous, en fait, est tout ce peuple tout entier. Comme souvent dans la Bible, la lecture est plus intéressante. La lecture la plus intéressante d'un passage, c'est de considérer que chacun des personnages de l'histoire représente une facette de notre personnalité. Et souvent, ça lève bien des difficultés dans le texte. Car quand Dieu, par exemple, foudroie, je ne sais pas quoi, ou noie les Égyptiens, si vous voulez, qui poursuivent les Hébreux qui sont en train de se libérer, d'être libérés par Dieu hors d'Égypte, eh bien les Égyptiens, le Pharaon, les soldats du Pharaon représentent tout ce qui en nous nous empêche d'avancer. Donc c'est une négativité, ce qui nous fait souffrir, des anciennes blessures ou bien des défauts que nous avons, un manque d'évolution peut-être. Et donc, souvent, les méchants qui sont tués par Dieu, ça représente plutôt une dimension de souffrance en nous, une dimension qui nous empêche d'avancer. Alors, nous pouvons ainsi souvent mieux comprendre ces textes et que ces textes, avec un massacre, puissent être conformes à l'amour de Dieu qui purifie notre existence de ce qui ne va pas. Mais donc, dans cette histoire, les différents personnages représentent les différentes facettes de notre personnalité. En effet, nous ne sommes ni tout à fait méchants comme Akasia, ni tout à fait comme ce génial prophète Élie. Nous sommes l'un et l'autre, bien sûr. Nous sommes à la fois un roi ou une reine qui doit prendre de bonnes décisions. Nous sommes prêtres et théologiens, nous avons une certaine sagesse, une certaine capacité à prier. Nous avons de la force, comme les soldats, pour faire le bien et pour faire le mal. Et nous sommes aussi prophètes, car Dieu a mis son esprit en chacune et en chacun. Et donc finalement, toutes ces dimensions sont bonnes. Il n'y a que des bonnes dimensions dans ce texte, dans ce royaume, dans le peuple d'Akasia. Sauf que, le roi n'est pas en forme, il est mal orienté. Et quand notre centre de décision à l'intérieur de nous-mêmes ne va pas, c'est tout notre être qui régresse, comme quand on a une équipe de foot constituée des meilleurs joueurs du monde et que l'entraîneur décide n'importe quoi, eh bien, les matchs sont perdus les uns après les autres. Et donc, il y a dans ce texte d'abord une bonne nouvelle, un évangile. C'est que même dans ce peuple qui est mal gouverné par un roi stupide et méchant, il reste quelque part, sur une montagne, un petit prophète qui est là, assis, et qui veille avec l'aide de Dieu. Même dans un homme stupide et méchant, donc faisant souffrir tout le monde, refusant Dieu, même dans cet homme-là, nous dit le texte, il reste quelque chose de cette étincelle de présence de Dieu, il reste cette dimension-là à l'intérieur, au plus profond, qui essaye sans cesse de réveiller en nous le meilleur, de réorienter la visée de notre existence et de remettre sur pied notre roi, notre centre de décision. Et que ce soit ainsi, plutôt par le cœur, par l'idéal, par la foi, par la bonté, que notre être tout entier soit grandi. Il y a donc un roi en chacun de nous. Comme Acacia, nous sommes rois de notre vie, de nos décisions, et nous faisons des choix tous les jours, des petits choix, et parfois dans notre vie, nous avons un certain nombre de grands, grands choix qui changent complètement notre parcours. Et nous avons, comme ce roi, nous avons des moyens à notre disposition, nous avons une intelligence, nous avons une force, nous avons du temps libre, nous avons des personnes qui nous aiment, nous avons des bras, des jambes, si nous avons la chance d'avoir des bras et des jambes qui marchent bien. Nous avons des moyens matériels, nous avons donc plein de choses à notre disposition. Nous sommes comme tout un peuple qui est prêt à vivre sa vie. Alors comment choisir ? Ce n'est pas toujours facile de bien choisir, pas toujours facile de bien décider dans sa vie. En effet, je peux choisir quelque chose aujourd'hui qui me semble bien, qui me semble agréable, et puis que finalement, eh bien, ça tourne mal. Est-ce que ce que je choisis aujourd'hui fera avancer mon royaume, c'est-à-dire mon être, ma vie, et puis aussi ceux qui me sont confiés pour que je puisse leur donner un coup de main, ceux que j'aime ? Et ces choix d'aujourd'hui, quel risque comporte-t-il de se casser la figure comme Acacia qui tombe de sa terrasse ? Et qu'est-ce qui fait que Acacia reste ainsi coincée, incapable de rebondir, incapable de réorienter ses choix justement ? Et il reste comme une mouche, vous savez, qui est contre la vitre et qui sans cesse essaye de traverser cette vitre parce qu'il ne voit pas clair, il ne voit pas qu'il y a une vitre. Et il essaye encore et toujours de foncer dans la même direction, en butant finalement. Acacia désire s'élever, il désire progresser. Ça aussi, c'est un bon point finalement. Mais tout dépend de ce que l'on entend par s'élever, progresser. Il y a s'élever et il y a s'élever. Il y a différentes façons. Pour s'élever, Acacia choisit d'adorer le dieu Baal, le dieu de la force et de la possession. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui et non. Il est bon d'avoir de la force, il est bon de posséder des moyens d'agir. Personne ne dira le contraire. La force et les possessions sont formidables, mais comme des outils peuvent être formidables pour faire le bien, mais aussi peuvent être néfastes si on en fait n'importe quoi. La force et la possession sont finalement comme un marteau qui peut être magnifique. Un beau marteau avec un manche rouge, c'est un bon outil. Mais il peut servir aussi bien pour construire une maison pour abriter une famille de l'hiver que pour assassiner quelqu'un en donnant un coup de marteau sur la tête de quelqu'un. Il est donc bon de posséder un marteau, mais que son usage soit déterminé par un bon projet et que ce soit ce bon projet qui oriente nos choix, notre façon d'utiliser cet outil qu'est le marteau. La foi, ce prophète que Dieu nous donne pour habiter au plus profond de nous-mêmes, est d'un bon conseil, évidemment, pour conseiller le roi. Mais encore faut-il que le roi veuille bien l'écouter, et dans cette histoire, il passe son temps à passer à côté de cette voie ou à essayer de lutter contre. Dieu est vivant, il est un idéal vivant qui dépasse ainsi les idéaux figés qui pourraient être bons, par ailleurs, si vous voulez, que les idéaux figés que peuvent être de bonnes valeurs, que peuvent être une bonne morale, c'est mieux que rien, si vous voulez. C'est mieux que d'adorer le dieu Baal, le dieu de la possession. Mais ce dieu vivant, il nous aide, si vous voulez, à avoir une vision dynamique de l'idéal et donc d'avoir un choix plus fin qui va dépendre des moments de notre vie et de notre circonstance. Dieu nous aide à nous adapter, à inventer du jamais vu, à avoir un chemin personnel, libre, dépendant de notre personnalité et de l'instant. Alors l'erreur d'Acacia, c'est bien sûr de ne pas écouter la parole du Dieu vivant, c'est bien sûr de ne pas avoir au moins un idéal de valeur, de bonne morale qui lui permettrait d'orienter son pouvoir et sa force. L'erreur d'Acacia, c'est encore plus bête que cela, et pourtant son erreur est infiniment fréquente, aussi bien il y a 3000 ans à l'époque de ce roi qu'aujourd'hui. Acacia, il choisit d'avancer en adorant la force et la possession. Alors ça semble naturellement une bonne idée, car ces choses peuvent être très utiles. Elles augmentent les possibilités de choix, et donc pour un roi qui est chargé de choisir, ça semble génial. Mais le problème, c'est que si vous voulez la possession et la force, ne disent pas du tout comment choisir ce qui est bien. Elles sont en elles-mêmes neutres, ni bien ni mal. Et donc en adorant le Dieu de la puissance, en adorant le Dieu de l'argent, en adorant le Dieu de la force, c'est comme si quelqu'un adorait son marteau au lieu de s'en servir. En adorant le Dieu de la puissance, c'est comme si quelqu'un adorait tellement son marteau qu'il avançait les yeux fixés sur son marteau comme ça, et donc il va n'importe où en fait, puisque le marteau ne sait pas où il va, il n'a aucune idée, si vous voulez. Et donc on risque de tomber dans une bouche d'égout, par exemple, qui était ouverte, laissée ouverte et qu'on ne voit pas. Juste dans l'adoration de son marteau, de sa puissance, hyper content de son beau marteau, Acacia va ainsi, au gré du vent finalement. C'est comme s'il prenait sa décision de sa vie en interrogeant son marteau pour lui dire « Oh joli marteau, qu'est-ce que tu crois que je vais faire aujourd'hui ?» Alors c'est absolument ridicule et c'est dangereux pour sa vie. Et c'est pour ça qu'il tombe finalement, Acacia. Parce que sa vie n'a pas de visée supérieure. Il fait n'importe quoi. Et donc même si nous ne sommes pas très bons théologiens, même si nous ne sommes pas très bons philosophes, au moins cherchons un idéal supérieur qui ne soit pas rien finalement, qui ne soit pas la simple adoration des moyens qui sont à notre disposition, une adoration de la puissance, de la richesse et de la force, parce que ça, c'est vraiment une façon de se casser la figure. Alors donc, il y a un roi en chacun de nous, il y a aussi un prêtre en chacun de nous. Comme Acacia, nous pouvons choisir notre adoration et en ce sens, nous sommes tous prêtres. Acacia, il envoie donc des serviteurs pour interroger Baal après s'être cassé la figure. Bon, là encore, ce n'est pas une mauvaise démarche finalement. Il s'est cassé la figure du haut de cette grandeur dont il était si fier, grandeur qui était bien mal placée. Mais quand même, c'est une drôle d'idée d'aller interroger le dieu Baal, l'auteur de le prophète qui a écrit cette histoire. Il en profite pour rigoler un petit peu en appelant le dieu d'Acacia Baal Zéboul, ce qui veut dire littéralement le seigneur des mouches. Alors c'est un peu une façon de détourner, si vous voulez, le nom de dieu des Babyloniens ou des Philistins, je ne sais plus. Et c'est bien vu finalement, car les mouches, c'est quand même des bêtes qui sont extraordinairement stupides apparemment, c'est-à-dire que quand on les voit avoir leur trajectoire, elle semble vraiment avancer au hasard, et je crois effectivement que la trajectoire de la mouche est complètement due au hasard. Et finalement, il y a de cela dans celui comme Acacia qui suit simplement le désir de l'instant sans aucune visée supérieure. Il est conduit simplement par le hasard, et ce n'est pas vraiment une façon géniale de diriger sa vie. Mais Dieu, incroyablement, envoie avec bonté son serviteur, son prophète, vers les serviteurs d'Acacia. Ils vont littéralement se convertir, ces serviteurs. Et ils vont revenir vers Acacia en lui donnant l'adresse de celui qui peut l'aider à se relever et qui pourrait lui permettre enfin d'avancer sur le chemin de la vie et non sur le chemin de la mort. Et donc finalement de cette histoire, si vous voulez, même si nous sommes à la base aussi nuls qu'Acacia, Dieu nous en garde, et je crois que quand même on n'en est pas à ce point-là, n'hésitons donc pas à prier. Même si nous prions faux, même si nous nous trompons de Dieu, même si nous ne savons même pas si Dieu existe, même si c'est pour prier le Seigneur des mouches, au moins prions, cherchons, espérons. Car cela, c'est comme une visée quand même qui nous sort de nous-mêmes. Et Dieu, avec douceur, essayera de convertir notre prière, même si elle est un peu ridicule à la base, pour l'exaucer d'une bonne façon finalement. Et c'est ce qui arrive dans cette histoire en nous invitant à réorienter notre espérance vers la source de la vie. Et donc la mauvaise prière d'Acacia est exaucée par une bonne réponse qui vient de la part de Dieu. Alors ensuite apparaît Élie, le prophète. Il y a donc au plus profond de nous-mêmes un petit prophète, Élie, assis au sommet de la montagne. Sa parole, la parole de Dieu au plus profond de nous, venant au détour de notre prière ou à la lecture de la Bible ou d'un événement de notre vie qui peut faire signe, ou de la parole de quelqu'un, d'un ami, d'un voisin, de quelqu'un d'inconnu, je ne sais pas, eh bien cette parole est souvent douce, souvent éclairante, souvent réconfortante, nous disant sans cesse « ta vie est précieuse ». Mais parfois, cette parole peut nous déranger comme elle dérange Acacia, qui la reçoit comme une menace contre lui-même. Alors oui, la parole de Dieu peut déranger, mais elle dérange des fausses idées de grandeur, comme chez Acacia. Des fausses idées de grandeur à laquelle nous sommes si tellement attachés, ou bien nous dérange dans notre adoration d'adorer un marteau, d'adorer le Seigneur des mouches, d'adorer le désir de l'instant, que sais-je. Jamais pourtant, nous dit Jésus-Christ, Dieu n'est autrement qu'une puissance de bénédiction et une puissance bienfaisante dans notre existence. La voix de Dieu en nous n'est jamais menaçante. La Bible n'est jamais à lire comme une menace, puisque Dieu aime même ses plus pires ennemis. Mais la Bible et la parole de Dieu sont souvent comme des miroirs qui nous révèlent à nous-mêmes. Et oui, c'est parfois franchement dérangeant de voir qui nous sommes en réalité. Et souvent, quand on se voit comme nous sommes en réalité, parfois nous sommes bouleversés parce que nous voyons nos défauts, si vous voulez, plus que nos qualités. Comme quand on se regarde dans la glace, qu'on a un bouton sur le nez, on se dit « Ah, catastrophe, je vais être ridicule ». Mais non, les gens, quand ils voient quelqu'un, ils ne voient pas d'abord le bouton sur le nez, ils voient l'être global. Et quand on est aimé, si vous voulez, par quelqu'un d'autre, on n'est pas à un bouton près, bien sûr. Et donc on se voit dans la glace à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, et parfois nous sommes bouleversés. Parfois, oui, c'est dérangeant, mais ça peut nous faire avancer, si vous voulez, car en même temps que le problème, nous voyons par Dieu la solution à nos faiblesses. Il est là pour nous. C'est ce que sait Élie, lui qui a expérimenté Dieu au cours de sa vie, comme une puissance de secours dans la détresse, de pardon dans la faute, de nourriture quand il est affamé. Il a découvert dans son expérience spirituelle que Dieu n'est pas comme un ouragan qui casse tout, mais qu'il est dans la douceur d'un souffle léger qui caresse notre joue et qui nous fait sentir une présence aimante à côté de nous et une invitation, si vous voulez, à sortir, à avancer avec ce souffle léger. Donc nous avons un roi en nous avons des prêtres en nous, nous avons un prophète en nous et nous avons aussi des soldats en nous, des forces pour agir. Mais encore une fois, le roi Acacia, énervé par cette parole de Dieu, va prendre de mauvaises décisions. Il envoie sa force armée, sa puissance, pour faire tomber ce prophète qui le dérange, le descendre, le réduire. Ses bonnes forces qui auraient pu servir à faire vivre, à soigner son peuple, à arracher le mal, les mauvaises herbes dans les champs, à inventer plein de bonnes choses, eh bien il va les mettre au service du mal. Une fois, deux fois, trois fois, Acacia s'acharne à vouloir entraîner l'étincelle de vie divine qui est au cœur de son royaume, au cœur de lui-même, l'arracher et l'écraser vers le bas. Vague après vague, les bataillons de 50 soldats cherchent effectivement, selon les ordres du roi, à faire dégringoler Élie du haut de sa montagne, du haut de sa prière, du haut de sa proximité avec Dieu. Eh bien non. Comme la mauvaise prière avait progressé et s'était convertie finalement par Élie, la force de négation de Dieu en nous sent que cette étincelle spirituelle est la racine même de l'amour, de notre dignité, et que oui, notre vie est vraiment précieuse aux yeux de Dieu. Et ce qui permet cette conversion, c'est symboliquement ce feu descendant du ciel. Ce feu descendant du ciel, ce n'est pas une mort qui viendrait de Dieu pour tuer des personnes ou pour enlever notre force, bien sûr que non. Mais ce feu est comme la puissance d'esprit que Dieu donne aux apôtres à la Pentecôte pour éliminer la peur qui était dans leur être, pour éliminer le doute, le manque d'espérance. C'est une force de purification pour éliminer une mauvaise puissance qui nous ronge de l'intérieur, étouffant le jaillissement de vie qui est dans cette étincelle de vie spirituelle qui est au plus profond de notre personnalité, de notre être, de notre cœur, de notre espérance et de nos bonnes idées, de notre bonne conscience. Élie peut alors, après cet début de prise de conscience de la tendresse de Dieu, Élie accompagne les soldats auprès du roi malade. Oui, le souffle de vie de Dieu nous accompagne Alors, aux profondeurs de notre détresse, de notre manque, de ce qui est en train de mourir en nous-mêmes et de nous entraîner vers le bas, Élie accompagne les soldats du roi. Nous pouvons, oui, mettre nos forces, même si c'était nos dernières forces, pour aller chercher au plus profond de nous-mêmes cette étincelle de vie qu'est Dieu et la ramener au sommet de notre conscience. Il y a là une puissance de vie qui n'attend qu'un geste, finalement. Comme dans toutes les histoires de prophètes, après l'annonce que tout est fini et que va y avoir un bouleversement, il aurait suffi d'un geste d'Akasia pour qu'il passe de la mort à la vie. Eh bien, ce geste, il ne l'aura pas, malheureusement. Pourtant, sa prière commence à se convertir, ses forces commencent à sentir que sa vie est infiniment précieuse aux yeux de Dieu, mais il reste obstinément fermé à cette puissance de Dieu comme une mouche sur une vitre. Il a pourtant tout pour être quelqu'un de génial, cet Akasia, comme chacun d'entre nous-mêmes, chacun d'entre nous, comme le chantait ce psaume 8, nous sommes de peu inférieurs à Dieu, nous sommes une créature merveilleuse. Ce Akasia, il a une capacité à faire des choix, à se décider par lui-même. Il a une volonté d'avancer, il a une volonté de s'élever, il a une recherche par la prière, il a des forces pour agir et il a l'Esprit de Dieu, oui, là, au plus profond de lui, près de lui. Il suffirait de remettre tous ces bons éléments, toutes ces bonnes dimensions en ordre, alors qu'elles sont en vrac. Il suffirait d'un geste, d'un regard bien orienté pour que l'ensemble de son être puisse être orienté, mis en ordre par la puissance de Dieu. Pour le reste, oui, le prophète que Dieu a mis en nous peut réaliser ce miracle de la mise en ordre des bons éléments de notre être, de cette merveille que nous sommes. Avec nos prières et notre réflexion qui éclairent nos décisions, avec nos décisions qui mettent nos moyens et nos forces au service de la vie, et pas de n'importe quelle vie de mouche, mais la vie belle, la vie bonne et si précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Et je vous propose de chanter au psaume 89, donc dans le psautier français, le psaume « Je louerai ton amour et ta fidélité ». Alors, je trouve ça toujours curieux, ce verbe « louer » qui veut dire deux choses, aussi bien chanter le bien qu'on pense de quelqu'un que de donner des sous pour emprunter quelque chose pendant quelques moments. Mais finalement, ça pourrait aller assez bien. Voilà, louer Dieu, c'est peut-être mettre quelque peu de ses moyens matériels eh bien, pour placer au-dessus ce qui est de l'ordre de l'amour, de la foi et de l'espérance. Donc, je louerai ton amour et ta fidélité, les strophes 1, 2 et 4 dans le psautier français. Vous pouvez prendre place. Alors, comme annonce pour ce jour, vous l'avez remarqué, il y a donc l'éducation biblique aujourd'hui. Les tout-petits sont en face, donc aux quatre rues de l'oratoire, donc leurs parents vont pouvoir les reprendre, les récupérer à la sortie de ce culte. Les enfants de l'école biblique sont dans la salle haute et on va tous se rejoindre avec les jeunes du catéchisme pour une après-midi jusqu'à donc 16h. Et puis les lycéens vont eux se retrouver dans la salle des jeunes à l'entresol du 4 rue de l'Oratoire. Voilà, tout le monde va avoir une bonne après-midi ensemble. On me demande d'annoncer cet après-midi à 17h au temple du foyer de l'âme un concert-conférence à propos de Pascal de Lestocart, qui est un musicien protestant de la Renaissance. Donc c'est en entrée libre, le foyer de l'âme, c'est tout près de la Bastille, 7 bis rue du Pasteur Wagner. C'est donc à 17h. Demain à 19h30, il y a le grec biblique des progressants. Mardi, il y a l'initiation à la théologie, mais ce cycle de 6 rencontres est déjà bien avancé. Donc si ça vous intéresse, ce cycle d'initiation à la théologie, eh bien, vous pouvez vous inscrire déjà pour le cycle suivant, la nouvelle édition qui aura lieu donc au mois de mars. Jeudi, il y a le chœur élargi à 19h30 pour préparer les chants de dimanche prochain. Et les chants, il y en aura dimanche prochain, puisqu'il y aura le culte le dimanche matin, bien sûr, avec mon cher collègue James Woody qui donne la prédication. Mais il y a aussi l'après-midi, chantons la réforme à 16h, avec la collection de chants les plus connus de la réforme, des chorales, des psaumes, des cantiques de la réforme, que nous chanterons avec joie, car c'est le best-of de ces cantiques, et que nous chanterons donc à plein poumon, accompagné par notre organiste titulaire, Jean-Dominique Pasquet. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande. C'est effectivement un temps de louange et une occasion de remettre les choses en perspective de notre vie, la foi, l'espérance et l'amour gouvernant un peu nos moyens. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, sois béni pour ta parole de vie, parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire. Accorde-nous de la recevoir dans nos cœurs et qu'elle y soit source d'une croissance vraie, qu'elle y purifie la source de nos pensées et de nos actes, qu'elle nous libère de tout ce qui est souffrant, de tout ce qui nous empêche d'avancer et de vivre. Oui, que ton amour, ô Dieu, l'emporte sur notre faiblesse, que ton Saint-Esprit nous fortifie et qu'ainsi nous puissions servir en parole et en actes ceux qui ont besoin de nous, ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs. Et unis dans une même foi en toi, à travers toutes les églises, dans tous les pays du monde, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons maintenant recevoir la bénédiction de Dieu sur notre existence tout entière, bénédiction qui nous est donnée au singulier, selon ce que Moïse nous dit, que l'Éternel te bénisse toi et qu'il te garde, que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacun d'entre nous, Dieu Sauveur. Amen.